Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro du magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les numéros de notre collection sur l'application RFI Pure Radio, notamment une collection de plusieurs centaines d'épisodes à ce jour. C'est un numéro hors série que nous vous proposons aujourd'hui. Chaque mois, en effet, nous retrouverons notre revue partenaire, la revue Esprit. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de sa directrice, Anne-Lorraine Bujon, avec laquelle nous allons parler de l'Europe, du projet européen à l'épreuve, pour reprendre le titre du dossier du numéro d'avril. Dans une seconde partie de l'émission, à mi-parcours de ce numéro, nous retrouverons Sylvie Laurent, qui, dans son dernier ouvrage en date, Capital et race, histoire d'une hydre moderne, écrit notamment ceci. 1492 a subjugué le monde. On retient de l'aventure de Christophe Colomb sa découverte d'un continent providentiel, révélant à la fois les merveilles sans fin de la Terre et la capacité inédite des hommes à s'affranchir des frontières et des entraves. Mais l'invention de l'Amérique fut plus qu'un récit. Elle consacra un nouveau rapport à la nature et aux hommes qui vit alors capital et race s'unir irrémédiablement. Nous allons en parler tout à l'heure. Idée, un magazine qui vous donne à réfléchir chaque dimanche à cette heure-ci. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes passés d'une semaine d'actualité à Idée, mais nous continuons le partenariat avec la revue Esprit. J'en suis ravi et j'en suis demandeur, figurez-vous. Et nous allons parler donc de l'Europe qui est au cœur de ce numéro du mois d'avril, le projet européen à l'épreuve. Bonjour Sylvie Laurent.
Bonjour.
Merci de nous proposer ce livre, Capital et race, histoire d'une hydre moderne. C'est un livre qui dérange, hein, qui nous propose une interprétation de l'histoire qui interroge. Nous en parlerons donc dans la seconde partie. Et nous allons commencer par l'Europe. Anne-Lorraine Bujon, à quelques semaines, quelques mois des élections européennes, vous vous penchez donc sur le sort de l'Union européenne.
Oui, on est revenu sur la question européenne, ce qu'on avait déjà fait l'année dernière dans un numéro aussi du printemps qui était consacré à la question de la souveraineté, retrouver la souveraineté, puisqu'on voyait ce thème monter dans le débat avec cette volonté de reprendre le contrôle qui était un des slogans du Brexit. Mais on a voulu revenir sur la question européenne avec le sentiment très net que l'Union européenne était un tournant. Alors c'est une chose qu'on dit souvent. Souvent, qu'elle se construit dans la succession des crises auxquelles elle arrive à réagir, dans lesquelles elle arrive à rebondir. Mais le sentiment ici qu'on était vraiment dans un moment crucial pour l'Europe, pas tant parce qu'elle risquait de se décomposer ou de se défaire, mais parce que le projet européen pourrait bien changer de nature, changer d'orientation. Donc c'était la question vraiment, quelle Europe voulons-nous, qu'on souhaitait reposer dans ce numéro d'avril, à deux mois des élections au Parlement européen.
C'est ce que vous écrivez ceci, ce n'est pas l'existence de l'Union européenne qui est aujourd'hui menacée, mais sa raison d'être.
Sa raison d'être. Pourquoi l'Europe? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette question « quelle Europe ?», en réalité, on se l'est posée à intervalles réguliers dans l'histoire et on se l'est posée notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans les premiers temps de la construction européenne. Et en tout cas, dans la revue Esprit, qui était très engagée dans la question de la réconciliation franco-allemande, notamment, et donc dans la construction de ce qui devait être une paix et une prospérité durable sur le continent européen. Donc on retrouve une série de textes très intéressants où Emmanuel Mounier, Jean-Marie Domenac bataillent un peu avec les fédéralistes européens avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord. Ils se posent aussi la question de l'influence des États-Unis sur la construction européenne. C'est une idée qui est dans tous les esprits. Mais finalement, la question de la guerre, la question du rapport à la guerre domine beaucoup de débats à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, puisque la construction européenne, c'était quand même une impulsion de plus jamais ça. Et les raisons pour lesquelles nous avons le sentiment que l'Union européenne est de nouveau à un tournant aujourd'hui, c'est bien parce que la question de la guerre est redevenue centrale.
Alors revenons à la source de cette Europe, Anne Lorraine, et écoutons François Fontaine. Il était diplomate en 1950 et il nous parle de l'annonce de la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est le noyau duquel a émergé cette Union européenne. Il était diplomate au ministère des Affaires étrangères, dont Robert Schuman était alors le patron. Il explique les raisons de cette création et au cœur de celle-ci est l'Allemagne. Et écoutons également la voix de Jean Monnet lors de l'inauguration de cette CECA le 10 février 1953.
Le problème était très concret. L'Allemagne était un enjeu dans un conflit latent entre les États-Unis et la Russie, qui étaient deux puissances atomiques à ce moment-là, et qui se disputaient le sort de l'Allemagne, qui était toujours au centre de l'Europe, un enjeu de premier plan, de première grandeur. Les Alliés étaient prêts à rendre à l'Allemagne sa pleine souveraineté telle qu'elle. Et d'ailleurs, ils rencontraient là l'accord du chancelier Adenauer, qui était un homme d'une lucidité politique formidable, qui avait compris que son pays devait être encadré dans un contexte européen. Et ce contexte européen, tout le monde le cherchait, mais on n'avait pas le moyen, j'ose pas dire le truc, n'est-ce pas, pour lier la France et l'Allemagne. Et c'était l'idée de Jean Monnet. Jean Monnet était un homme d'idées et M. Schuman était un homme de pouvoir. Alors, l'homme de pouvoir n'avait pas d'idées et l'homme d'idées n'avait pas le pouvoir. Ils se sont rencontrés et immédiatement, l'affaire a été nouée. Elle était présentée le matin même au chancelier Adenauer, qui a dit « mais j'accepte, c'est merveilleux ». Et le soir, c'était noué parce que cette déclaration était solennelle et ce n'était pas une vague proposition, c'était une décision.
Depuis ce matin, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 150 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. À l'ouest et à l'est se développent dans de grands espaces de vastes productions modernes, mais chez nous, en Europe, nous demeurions limités par nos frontières trop étroites, qui n'étaient plus à l'échelle du monde moderne. Les décisions de la Haute Autorité, qui entrent en vigueur aujourd'hui, sont le commencement de notre marché commun européen de 150 millions de consommateurs. C'est en poursuivant dans cette voie que nous créerons des conditions qui nous permettront à nous, Européens, et aux peuples libres qui voudront se joindre à nous, de contribuer dans le monde moderne, à notre propre bonheur, à la civilisation et à la paix.
Suite de ce premier volet du numéro d'idées avec Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre partenaire, qui s'intéresse dans son numéro d'avril au projet européen à l'épreuve, vous avez entendu ce Jean Monnet parler déjà d'un marché de consommateurs.
Oui, elles sont très intéressantes ces archives parce que on y entend bien que après les deux guerres si meurtrières qu'a connu l'Europe, on est dans l'idée que ce qui permettra de repartir dans un nouveau projet européen, c'est bien l'économie. Donc c'est effectivement la préhistoire de la constitution de ce grand marché européen. Et on entend ce thème de l'économie, ce thème de la consommation. consommation. Donc on sait que derrière ce projet, il y a aussi les États-Unis, leur plan Marshall, avec l'idée d'aider à reconstruire l'Europe tout en créant un marché aussi et des débouchés pour les produits américains. Donc il y a cette question de l'économie. J'entends beaucoup la question de la modernisation aussi, que je trouve très intéressante. C'était une manière d'avoir un grand projet moderne, puisque cette première Union européenne, donc Communauté européenne du charbon et de l'acier, elle est créée pour tourner le dos, pour tourner la page des guerres terribles du premier XXe siècle, donc pour tourner le dos à ce qu'a été l'histoire européenne, donc tourner résolument vers l'avenir. Alors à cette question de l'économie, de la modernité, s'ajoutera plus tard la question du droit, et c'est effectivement les forces reconnues à l'Union européenne que d'avoir été un grand espace intégré d'économie et de droit, mais c'est aussi ça qui ne suffit plus tout à fait aujourd'hui.
Vous parliez tout à l'heure de la personnalité de l'Union européenne, de sa raison d'être. C'est le thème de votre papier qui ouvre ce dossier. Dans ce dossier, précisément, Céline Spector se penche sur le pouvoir de cette Union européenne. Elle dit le premier risque de l'Union européenne, c'est de rester un nain politique.
Un géopolitique même, je crois qu'elle dit. Ouais. Donc Céline Spector, elle entre en discussion dans cet article très intéressant de Nouveau Tribun, le moment machiavélien de l'Europe. Elle entre en discussion en fait avec Luc Van Middelaar dans son dernier ouvrage, qui défend l'idée que l'Europe est à un moment machiavélien, c'est-à-dire un tournant où elle est sommée de s'assumer comme puissance et de devenir une vraie puissance géopolitique.
À cause de la nécessité, hein, c'est ce que dit Machiavel.
Voilà.
Dont on a parlé dans un numéro précédent avec Gérard.
Voilà, donc nécessité faisant vertu. Donc il faut savoir réagir à l'événement, à l'occasion, au kairos. Et ici, l'événement, il est double et les deux sont liés, bien sûr. C'est la question de la guerre en Ukraine, c'est la question de la menace que représente désormais la Russie. Qui, plus ça va, plus cette Russie se présente comme un adversaire déclaré de l'Union européenne, de ses valeurs, de son projet, précisément, se livrant à toutes sortes de manœuvres de désinformation, d'ingérence. Voilà, donc il y a la Russie comme menace pour l'Europe, et puis les États-Unis qui ont été la puissance protectrice, la puissance à l'ombre de laquelle s'est construite cette Union européenne qui ne joue plus le même rôle de garant de la sécurité internationale, de telle sorte qu'on ne peut plus compter sur la Pax Americana, d'où la nécessité pour l'Europe de devenir réellement une puissance géopolitique, ce qu'elle n'est pas encore aujourd'hui.
Ce qui passe par exemple, notamment par une réforme de ses institutions. Céline Spector examine cette question sur le rôle du Parlement, sur le rôle du Conseil européen.
C'est même le nœud de son désaccord ou de la différence dans sa lecture et celle de Luc Van Middelaar, puisque Luc Van Middelaar défend l'idée que pour être une réelle puissance géopolitique, l'Union européenne va devoir renforcer son exécutif avec la possibilité de prendre des décisions et de les mettre en œuvre. Donc renforcer l'exécutif, ça passerait par la fameuse méthode intergouvernementale, donc en laissant le premier pouvoir, la prépondérance au Conseil européen et à la Commission. Céline Spector, elle, défend, c'est ce qu'elle faisait dans son grand livre « No Demos » qui était paru au Seuil l'année dernière, me semble-t-il, elle défend en fait une idée de république fédérative d'Europe, donc qui est une idée très inspirée de Montesquieu plutôt que de Machiavel. Et donc elle dit qu'il faut déplacer un petit peu l'accent de Machiavel à Montesquieu pour aller vers une Europe plus fédérale qu'elle n'est aujourd'hui. Et en termes de travail sur les institutions, ça passe pour Céline Spector par un renforcement du rôle du Parlement européen, qui ne peut pas juste être une forme de contrepoids civique au pouvoir exécutif, mais qui doit devenir vraiment le forum où peuvent s'affronter des forces sociales qui ont des intérêts contradictoires. C'est pour ça que le texte s'appelle « De nouveaux tribuns ». Elle rappelle cette opposition chez Machiavel, pour le coup, entre les patriciens et les plébéiens. Mm-hmm. Et en fait, elle appelle de ses voeux un parlement où pourraient s'exprimer les plébéiens avec de nouveaux tribuns qui vont défendre des idées différentes de ce que doit faire l'Europe dans le monde du XXIe siècle.
Anne-Lorraine Bujon, dans un autre article de ce dossier, Hans Kundnani s'intéresse à l'extrême droite. On sait que l'extrême droite progresse partout en Europe. Et lui explique que finalement, l'Union européenne peut s'accommoder de l'extrême droite. Et il prend l'exemple de l'Italie avec Giorgia Meloni.
Ce texte de Hans Kundnani, je crois, est très intéressant. Il est assez polémique. Oui. En fait, il pique pas mal la réflexion. Hans Kundnani vient d'écrire un gros livre intitulé Euro-Whiteness, où il développe certaines des mêmes idées. Donc l'idée, on a longtemps pensé que l'extrême droite, parce qu'elle était nationaliste et eurosceptique, n'était pas compatible avec l'Union européenne. Donc le problème que la montée des partis d'extrême droite posait, c'était la montée de l'euroscepticisme, l'idée que ces partis pousseraient à une sortie de l'Europe. Et c'était le cas, bien sûr, avec le Front National en France, devenu Rassemblement National depuis, et qui a changé d'idée sur l'Europe. Et ce qu'on voit, et qu'on voit très bien depuis que Giorgia Meloni, effectivement, dirige l'Italie, c'est qu'en réalité, l'extrême droite peut être compatible avec l'Union européenne, dans le sens où elle ne chercherait pas à en sortir, mais plutôt à la remodeler de l'intérieur, donc à pousser vers un autre projet européen. Et c'était bien cette question qui était au cœur de notre dossier. C'est le risque qu'on court, c'est effectivement que l'Union européenne poursuive sa construction, mais en ayant décalé, en ayant dévié de son projet initial, qui était un projet de paix, qui était un projet cosmopolitique, qui était un projet de nationalisme civique, et pour aller plutôt vers un projet qu'on pourrait appeler ethno-régionaliste. En fait, ce qu'explique Hans Kundnani, c'est que un certain nombre de partis d'extrême droite dans les différents États membres de l'Union européenne aujourd'hui ne sont plus nationalistes au sens strict du terme. Ils sont devenus régionalistes, c'est-à-dire qu'ils défendent un projet identitaire qu'ils appellent souvent civilisationnel, qui est un projet d'exclusion de certaines personnes ou groupes sociaux désignés comme indésirables en Europe, mais ils le défendent à l'échelle du continent. Donc c'est le cas d'un Éric Zemmour, c'est le cas d'une Giorgia Meloni, c'est le cas dans une certaine mesure d'un Viktor Orban.
Alors il y a un autre, tous les articles sont passionnants comme d'habitude hein, dans la revue Esprit et dans ce dossier consacré à l'Europe, il y a notamment un autre article, une autre contribution de quelqu'un que nous connaissons dans l'émission, on en a souvent parlé, Justine Lacroix, elle était venue aussi nous parler de la question des droits de l'homme et de Martin Delex sur la politique, sur la culture politique commune de l'Europe, existe-t-elle ? C'est le patriotisme européen à l'épreuve du monde et Martin Delex et Justine Lacroix mettent au cœur de leur raisonnement Habermas et sa notion de patriotisme constitutionnel.
Voilà, alors ça, c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on disait à l'instant sur le travail de Hans Kundnani, c'est-à-dire que l'Europe, dans cette vision, et c'est vrai aussi des États-Unis, dont on parlera dans un instant avec Sylvie Laurent, seraient travaillés par cette tension, en fait, avec une forme de patriotisme civique, donc fondée sur l'adhésion à un certain nombre de valeurs, l'État social, les droits de l'homme, le cosmopolitisme, un État de justice et de droit. Donc ça, c'est une version. La version, c'est le nationalisme ou le patriotisme civique. Et effectivement, vous évoquez Jürgen Habermas, c'est à lui qu'on doit en fait l'articulation la plus complète de cette vision du patriotisme constitutionnel, dans les termes d'Habermas. Et la question que posent Martin Delex et Justine Lacroix, c'est de savoir si finalement les derniers événements, les derniers développements, cette dernière période dans la construction européenne invalide la thèse de Jürgen Habermas, dont certains avaient dit qu'elle était un peu naïve, qu'elle faisait fi des passions politiques et des passions mauvaises, qu'elle pêchait par abstraction, que sa vision d'un espace public européen, du fait qu'on pourrait... c'est la question, est-ce qu'on peut aimer des institutions? Est-ce qu'on peut aimer une constitution? Parce qu'il parle de patriotisme constitutionnel. Donc,
ça ne fait pas rêver, effectivement.
Voilà, on fait souvent ce reproche aux thèses d'Habermas d'être excessivement abstraite. Mais Martin Delex et Justine Lacroix commencent quand même par nous rappeler que oui, il y a des gens qui aiment la liberté, la justice et le droit. La preuve, regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc l'idée que les gens ne seraient pas prêts à se battre pour l'adhésion à ce pacte civique européen, ça n'est tout simplement pas vrai. En revanche, Martin Delex et Justine Lacroix abordent effectivement la question du cosmopolitisme qui était au cœur de ce projet de patriotisme constitutionnel tel qu'il était développé par Habermas et reconnaissent qu'il y a une vraie tension sur cette question du cosmopolitisme aujourd'hui. Et donc la question que pose aussi Hans Kundnani finalement, qui est l'Union européenne ces dernières années, serait-elle devenue un club de blancs dans laquelle on veut bien s'unir, on veut bien baisser les frontières, faire circuler librement les biens, les personnes, à condition finalement qu'elles soient blanches, chrétiennes et plutôt comme nous. Et donc ça, ce serait une vraie limite à la thèse d'Habermas si on montrait qu'effectivement, cette adhésion à un jeu de valeurs, de principes constitutionnels n'était pas offerte à des gens qui ne partagent pas avec les autres membres de l'Union européenne une culture, une civilisation, une religion. Mais je crois que Martin Delex et Justine Lacroix font une lecture très ouverte, très dynamique de ce qui est en train de se produire et posent finalement la question de savoir si la capacité que les Européens ont eue à s'interroger sur leur histoire et sur ce qu'il y avait de meurtriers et de criminels dans leur histoire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, précisément pour essayer de renouer des liens d'une autre nature et de faire en sorte que ces horreurs ne soient plus jamais possibles. Ce travail en fait d'introspection critique, de réflexion sur l'histoire, ils font l'hypothèse qu'on est en train de le faire aussi sur le passé colonial de l'Europe. C'est simplement qu'il est encore en cours. Et donc, il faudrait pousser les réflexions d'Habermas plus loin, finalement, et pousser cette impulsion et cette lecture critique plus loin.
Merci Anne-Lorraine Bujon. J'ajoute qu'il y a, ça n'a rien à voir avec l'Europe, quoique il y a un entretien avec Gaïds Minassian sur l'Arménie. C'est un entretien absolument passionnant sur l'existence même de l'Arménie, hein, et de cette guerre en Azerbaïdjan.
Oui, alors en fait, c'est pas sans lien du tout. L'entretien est effectivement placé derrière le dossier sur l'Europe. Mais Gaïds Minassian met vraiment en lumière dans ce dernier épisode des conflits en Arménie qui a vu l'Azerbaïdjan reprendre le Haut-Karabakh en déportant toute sa population arménienne. Le caractère identitaire et le caractère existentiel des conflits qui se jouent en Arménie aujourd'hui, avec un refus de reconnaître l'autre et donc une volonté de constituer des groupes ethniques homogènes. Et donc, il montre aussi les liens entre ce conflit et la question de la guerre en Ukraine, et donc la volonté qu'ont certains nouveaux autocrates aujourd'hui de mener des guerres civilisationnelles contre des autres qui seraient inassimilables. Et c'est bien ce risque qu'on voit monter partout dans le monde aujourd'hui de mener des conflits sur une base identitaire et existentielle. Et c'est contre ce type de conflit que l'Union européenne s'est constituée, rappelons-le.
Merci Anne-Lorraine Bujon. Il y a donc ce numéro d'Esprit, la revue papier. Et rappelons qu'il y a aussi plein de podcasts. Hein. Il y a un site très riche.
Un site internet, des vidéos, des podcasts, toutes sortes de choses. Et une lettre d'information tous les vendredis.
Elle est précieuse et nos auditeurs et auditrices savent qu'elles peuvent s'y abonner gratuitement à cette lettre. Le mot d'Esprit. Tous les vendredis. Merci Anne-Lorraine Bujon. Nous allons vous retrouver avec la revue Esprit le mois prochain. Je crois qu'il sera question de Paul Ricoeur.
Et d'imagination.
Ce numéro d'idées, dans un instant, nous allons retrouver Sylvie Laurent et parler de son livre « Capital et race, histoire d'une hydre moderne au seuil ». Mais auparavant, je propose d'écouter Dabia du groupe germano-ghanéen Djemba Groove. Vous écoutez RFI et singulièrement un nouveau numéro du magazine Idée. Nous avons, avec Anne-Lorraine Bujon, parlé du dernier numéro de la revue Esprit, le projet européen à l'épreuve. Et nous parlons maintenant d'un livre qui interroge, qui suscite la réflexion en tout cas, qui s'intitule « Capital et race, histoire d'une hydre moderne », écrit par Sylvie Laurent. Bonjour Sylvie Laurent.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à Sciences Po notamment. C'est un livre qui dérange parce qu'il associe, qui analyse cette notion de capitalisme racial. Est-ce qu'on peut le définir pour commencer notre conversation ?
Alors c'est un terme qui existe depuis longtemps puisqu'il a été pour la première fois articulé par des marxistes dissidents de l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 70, à une époque où le Parti communiste était l'un des principaux alliés du mouvement de résistance contre le régime racial suprémaciste qui régnait alors, et dans des revues de débat, un peu l'équivalent d'Esprit à l'époque dans les cercles marxistes sud-africains, on se disputait sur l'idée selon laquelle, finalement, l'ouverture de l'Afrique du Sud au capitalisme, et notamment la finance internationale, très naturellement amènerait ce système d'apartheid racial à un point de fragilité et qu'il disparaîtrait face au grand souffle du capitalisme. Et ces militants qui parlent alors de capitalisme racial cherchent à démontrer que bien au contraire, loin de s'opposer à toutes les dominations raciales et à la subjection dans laquelle les Noirs sont maintenus en Afrique, le capitalisme s'en nourrissait, que c'en était une condition essentielle. Et quelques années après, un intellectuel noir américain du nom de Cedric Robinson, très familier alors qu'il est à Londres de ces conversations qui se déroulent en Afrique du Sud, reprend cette idée dans son grand livre « Marxisme noir » pour montrer que ça n'est pas propre à l'Afrique du Sud, que cette logique fondamentale qui fait que le capitalisme qui a émergé de la terre européenne était déjà imprégné de cette forme de racialisation qui existait, visant à définir la valeur humaine d'un individu par sa filiation, son origine, sa noblesse d'une certaine façon, eh bien ça avait infusé le capitalisme. Et donc ce terme de capitalisme racial cherche à répondre à la question très simple qui est comment se fait-il que depuis 500 ans, le capitalisme et la race, comme principe de différenciation de la valeur des hommes entre eux, aient cheminé de concert au point d'en être des compagnons de route. Et ce livre essaye d'y répondre.
Au cœur, Sylvie Laurent, de ce livre, il y a l'Amérique. Il y a les États-Unis, pour être précis, mais l'Amérique aussi, avec une date clé. 1492.
Oui, c'est une généalogie longue. Vous disiez en ouverture que mon livre était dérangeant.
C'est-à-dire qu'il est
peut-être
dans le bon
par
sens
chez
du
nous,
terme.
Je l'entendais bien ainsi. Peut-être par chez nous, mais pour quiconque connaît les pensées critiques du capitalisme et du système monde, parmi les penseurs sud-américains, antillais ou des enfants de la diaspora africaine, cette question est une évidence. On a récemment regretter la disparition du philosophe Henrique Doucelle, mais pour les Sud-Américains, les indigènes et les Noirs des Amériques, il ne fait aucun doute qu'à partir de 1492, l'Europe a inventé une Amérique à son image, d'où le fait qu'elle parle des Indiens pour ces Américains natifs qui sont là. Et 1492, ça n'est pas, comme on le pense souvent, la période d'une grande découverte et d'une grande libération de la connaissance humaine, mais c'est aussi la mise au travail de la nature et des gens qui se trouvent, qui sont relégués du côté de la nature, et cette nouvelle forme de productivité, de consommation du capital terre et de rationalisation de l'occupation du sol, et ce grand projet de colonisation des Amériques au nom de cette civilisation par la religion, le marché et l'émancipation humaine, a pour condition d'existence même le fait de maintenir une population, en l'occurrence les indigènes et les Noirs, du côté de la production, de l'extraction de la richesse, sans souveraineté de soi et sans souveraineté sur la terre. Et c'est là que le mot race prend toute sa substance.
Alors vous écrivez à propos de ce mot race qui suscite toujours des débats, voire des controverses. Vous écrivez « Le débat historiographique sur l'émergence de la race est riche et voit s'opposer bien des lectures. »
Oui, bien sûr, c'est pour cela que mon livre ne parle pas de racisme, mais de race. Car on pense bien souvent le racisme comme finalement ce que Adam Smith disait de l'esclavage, une passion pour la domination, quelque chose de l'ordre du sentiment mauvais, de l'hostilité vis-à-vis de l'altérité. La race, ça n'est pas du tout ça. C'est un principe d'organisation rationnelle de l'humanité, selon une hiérarchie qui a vu les Européens dominer 80% de la surface de la planète et bien souvent déloger les gens qui s'y trouvent pour s'y installer. Et une fois encore, je suis persuadée que quiconque, depuis les Antilles ou les Amériques, vit ça très profondément, car la grande institution dont je parle dans le livre, qui a cristallisé disais, ce nouage entre capital et race, c'est la plantation. La plantation sucrière, inaugurée par Christophe Colomb dans les îles, et dont le principe même est que la production de richesses est fondée sur l'extraction forcée du travail des esclaves. Dans un premier temps, des millions d'esclaves ont été les Amérindiens, puis ce sont les esclaves, les hommes marchandises venus d'Afrique, qui ont servi ce grand projet. La plantation, première forme du capitalisme aux Amériques, deviendra jusqu'à nos jours la grande matrice de cette production de richesses par la soumission à la main blanche du travail des autres.
Alors j'avoue qu'il va falloir que je relise Robinson Crusoe avec un autre œil. Vous écrivez, Robinson est au cœur de ce livre, et il l'est effectivement, car il détient l'un des secrets du raccordement de la race et du capital.
Oui, j'ai voulu dans ce livre non pas établir...
Il est très présent, hein, Robinson Crusoe. Et oui. Vous expliquez très bien sa conquête progressive.
Alors, je dois dire que je suis davantage influencée par la lecture que Marx fait de Robinson Crusoe que par le roman de William Defoe lui-même. Donc, c'est un roman qui paraît au début du XVIIIe siècle, au moment où le capitalisme connaît une mutation intellectuelle avant d'être pratique. C'est-à-dire que cette grande période du commerce mercantile ou mercantiliste voit ses premières critiques, les premières fractures, et les libéraux réclament que davantage de libéralisation des échanges et du marché permettent l'enrichissement de l'Europe. Et Robinson Crusoe apparaît à ce moment-là sous la plume de quelqu'un qui est un grand défenseur du capitalisme impérial britannique, et il raconte l'histoire d'un homme seul, échoué sur une île déserte, qui invente le capitalisme de son esprit et de son ingénuité en maximisant son temps de travail, divisant ses tâches et en organisant la production de marchandises sur son île. Et Marx nous dit, mais quelle Robinsonade, quel conte pour enfants, quelle fable, alors que ce Robinson hérite en réalité du navire échoué l'ensemble de ses facteurs de production qu'il a les graines, qu'il a les outils, qu'il a l'arme à feu. Et j'ajoute, avec l'aide des penseurs éco-critiques et des humanités environnementales, que cette île a déjà été peuplée, déjà été mise en valeur, qu'il y a des animaux domestiques, qu'il y a du tabac, qu'il y a déjà toutes sortes de merveilles sur cette île, et que Robinson n'a rien inventé. Et là où Marx dit, c'est la grande fable du capitalisme, qui libère, qui fait entrer dans la modernité, j'ajoute avec beaucoup, une fois encore, de penseurs afro-descendants et américains et amérindiens, qu'il y avait des gens sur cette île, qu'elle n'était pas déserte, que ce sont les indigènes, et que dans ce roman, ils sont appelés cannibales et qu'ils sont extermités. Seul l'un d'entre eux est sauvé, permettant la bonne conscience de Robinson. Il s'appelle Vendredi parce que on efface son nom pour lui donner le nom que le maître décide de lui donner, qu'il sera son esclave, travaillant pour lui. Et que l'on voit que derrière la grande fable de l'invention du capitalisme, il y a l'existence de ce petit secret bien gardé, qui en réalité se déroule au plein jour, qui est la soumission d'un homme marchandise qui, parce qu'il n'a pas la bonne filiation, est considéré comme un indigne et qu'il sera donc taillable et corvéable à merci, sans la souveraineté que les Britanniques prétendent répandre à la surface du monde grâce à leur libre marché, à leur sens du commerce et à leur état de droit. Voilà donc ce que nous dit Robinson Crusoe.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Sylvie Laurent, qui vient d'écrire « Capital et race, histoire d'une hydre moderne », un livre publié aux éditions du Seuil, dans lequel vous voulez, écrivez-vous, reprendre en quelque sorte la conversation entre Karl Marx et Martin Luther King.
Oui, en effet, on a tendance très souvent dans un lieu commun qui, en général, est une grande pauvreté, à opposer la longue histoire du combat antiraciste et du combat anticolonial à la lutte strictement marxiste contre le capitalisme comme système européen de production de richesses centré sur l'usine, le salariat et l'intensification du travail. En réalité, une fois encore, il existe toute une tradition critique du capitalisme qui est un petit peu tombée en désuétude, il est vrai, ces dernières années, qui, depuis Rosa Luxembourg jusqu'à Aimé Césaire, dépenseur amérindien, jusqu'à Martin Luther King lui-même, n'a jamais cessé de montrer qu'il y avait dans la production et l'histoire même du capital, commencé avec ce que l'on a appelé les grandes découvertes, une association fondamentale entre la domination européenne sur des peuples qui sont, comme nous le dit Fanon, fatalement soumis au nom de la race, puisque on déduit de leur carnation, ce qui deviendra la métaphore de leur infériorité, le fait que l'Europe a le droit de les asservir, de les occuper et de les exploiter. Et que ce type d'organisation du travail à l'échelle du monde, qu'il s'agisse de l'esclavage, qu'il s'agisse de la dépossession des indigènes qui perdent leurs terres pour laisser place aux capitaux européens et à la population européenne dans ces parties du monde qui ont été repeuplées, ce remplacement des populations indigènes par les Européens, on l'a vu aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, dans une certaine mesure en Argentine, eh bien cette histoire-là, elle mérite d'être lue par le prisme de la théorie critique du capitalisme, et qu'il n'y aurait pas de capitalisme sans cette première mondialisation, et qu'encore aujourd'hui, si l'Europe dont nous parlions et l'Amérique du Nord concentrent dans leurs mains 65% des richesses du monde alors qu'ils ne représentent que 17% de la population du monde, c'est peut-être qu'il y a une histoire de captation des richesses qui a tout à voir avec l'histoire du capitalisme.
Et il y a au cœur de ce livre, de cette analyse de la relation entre capital et race, il y a l'impérialisme précisément. On y faisait allusion avec Anne-Lorraine Bujon tout à l'heure. Vous écrivez « L'impérialisme, c'est-à-dire l'accumulation de terres hors de l'Europe, n'est pas un moment de la maturation capitaliste, mais un trait intrinsèque de sa nature. »
Écoutez, là encore, j'enfonce des portes ouvertes. Rosa Luxembourg a été l'une des premières, Lénine, bien sûr, dans l'impérialisme statut suprême du capitalisme, mais Rosa Luxembourg, singulièrement, a montré, se détachant de Lénine, qui semblait dire que finalement, seul un capitalisme déliquescent pour survivre commençait à dévorer ces territoires périphériques. Rosa Luxembourg dit non. Le capitalisme, fondamentalement, a besoin de débouchés, d'une population que l'on peut asservir et de dévorer les matières premières des sociétés qui ne sont pas encore capitalistes. Tout capitalisme est colonial. Rosa Luxembourg le dit à un moment où l'Europe dévore le monde, en particulier l'Afrique, puisqu'elle a déjà eu raison de la souveraineté des Amériques et de l'Asie. Et ce que dit Rosa Luxembourg, malheureusement partie trop vite, c'est qu'il n'est de marxisme véritablement révolutionnaire que si l'on enrôle la question de l'anticolonialisme et de son héritage dans nos sociétés européennes et américaines qui continuent à penser une espèce de souveraineté exclusive par ceux qui s'appellent les Occidentaux, on ne fait que servir le capitalisme qui est une dévoration et qui se pare des habits de la civilisation. Et on le voit aujourd'hui beaucoup dans ce qui est une défense de l'Occident, du libre-marché et du christianisme.
Et justement, vous intéressez dans cette analyse, Sylvie Laurent, à la période des Lumières, à la réflexion des philosophes des Lumières, notamment sur la question de la propriété, sur la notion du commerce, du doux commerce de Montesquieu, par exemple.
Alors oui, il y a déjà beaucoup de livres qui existent sur la question des Lumières et de la question raciale ou de l'inégalité des hommes ou de l'universalité des droits humains. C'est quelque chose qui a été très très bien fait, que je ne souhaitais pas reprendre. En revanche, j'étais très intéressée par la manière dont bien des penseurs des Lumières identifient progrès de la civilisation et extension du domaine du grand commerce, du libre marché et de la propriété privée. Bien sûr, les Lumières écossaises singulièrement.
John Locke, par exemple, oui.
Alors,
ou Adam Smith, oui.
principalement Hume et David Hume et Adam Smith, mais l'on retrouve cela aussi chez Voltaire, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Angleterre, par sa création de richesses en occupant les surfaces du monde, apporte une forme de liberté et d'émancipation qui suppose que les Noirs demeurent des nègres et que les indigènes cèdent la place à la civilisation européenne. Et donc, je n'ai pas pensé, si vous voulez, leur rapport à la civilisation en termes explicites racial, mais je me suis rendu compte, y compris chez Adam Smith, qui est un anti-esclavagiste et un anti-colonialiste absolument virulent, qu'il considérait que d'une certaine manière, permettre la prospérité européenne sur les terres du monde supposait en effet que certaines civilisations qui n'étaient pas arrivées à ce niveau de développement cèdent la place. Et là réside la race, dans cette euphémisation de la toute-puissance de l'Europe sur des terres et des peuples qui lui sont soumises parce que l'Europe a décidé que leur niveau de développement était moindre. Et donc, cette présence de la race comme trace, je la trouve chez ceux qui défendent le capitalisme comme grande source de libération de l'humanité, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Et vous qui êtes spécialiste des États-Unis, vous expliquez dans ce livre que tout a commencé avec les pères fondateurs, les premiers colons qui ont développé ce mouvement dès le départ, dès la création des États-Unis au 18e.
Alors, de même que
pour ne parler que des États-Unis.
De même que 1492 est une Robinsonnade, c'est-à-dire qu'on appelle libération et découverte ce qui est la conquête et la colonisation d'un continent peuplé de civilisations brillantes, les États-Unis s'inventent comme une auto-fondation, c'est-à-dire des colons qui arrivent sur une terre vierge et ils transforment la sauvagerie, une nature hostile dans une terre de civilisation, et avec l'aide de Max Weber qui participera de la mythologie, on pensera que ce sont des persécutés religieux, les puritains, qui, d'ailleurs, je le rappelle, Robinson Crusoe était un puritain, il rejoue déjà la naissance des États-Unis, vont inventer une terre de liberté et de prospérité, et jusqu'à Tocqueville, c'est un mythe. Mais la réalité, c'est que la condition d'existence des États-Unis, c'est le fait de s'accaparer une terre, de s'approprier un continent, à la condition que les populations indigènes soient exterminées, que la nature soit domestiquée et qu'elle soit mise au travail par le travail forcé des Africains qui sont arrachés d'Afrique et transportés aux Amériques, 15 millions à l'échelle des Amériques, près d'un million pour les colonies anglaises d'Amérique du Nord, et ils seront en quelques années près de 4 millions au moment de la guerre civile et de l'abolition. Et que donc il y a cette chose extraordinaire que les États-Unis sont la grande république née des révolutions libérales et de 1776, cette terre de liberté, cette première démocratie, cette généralisation de l'état de droit, et en même temps c'est le paradis du capital. C'est
la terre d'élection du capitalisme.
Exactement,
racial, écrivez-vous.
La crématistique trouve une géographie, les richesses sont illimitées, mais la condition de possibilité pour cette terre de richesses illimitées, c'est qu'elle soit nettoyée de ses habitants, de ces indigènes, et que les plantations, c'est-à-dire l'extrême rationalisation de production de marchandises à condition d'extraire de la terre et d'extraire du travail forcé des corps noirs, cet idéal républicain du petit propriétaire américain. Et donc il est important de comprendre à quel point, si l'on veut comprendre les États-Unis aujourd'hui, il faut comprendre cette histoire-là très longue qui fait de l'accumulation de richesses matériel, la source de la souveraineté de la population blanche, et qu'il naît de liberté et de sacralisation patriotique, sans prendre comme héritage de cette histoire le fait que ceux qui n'étaient pas blancs étaient condamnés à la dépossession ou à l'asservissement.
Comme l'écrivait Marx, dites-vous, capital et race dansent leur ronde fantomatique.
Alors, Marx ne dit pas le premier partie de la phrase, il ne dit pas capital et race, mais il dit que bien des choses dansent une ronde fantomatique, et il dit aussi à propos de notre déni face de l'exploitation, nous baissons sur nos yeux une capuche de nuages pour ne pas voir le monstre de l'exploitation, et j'ajouterais que nous baissons sur nos yeux la capuche de nuages pour ne pas voir le monstre de la race qui s'est si bien marié avec le capital.
Merci Sylvie Laurent, il faut lire votre livre « Capital et race, histoire d'une hydre moderne ». C'est le titre donc de cet essai publié au Seuil. Merci. d'être venu nous
en parler. Merci à vous.
C'est la fin de ce numéro hors série d'idées, réalisé comme tous les autres par Vanessa Rovensky. Rendez-vous sur l'application RFI Pure Radio si vous souhaitez retrouver cette émission. Et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.